Europe 1, près de chez vous.
Bonjour Joël Giraud.
Bonjour.
Bonjour. Depuis cette période de confinement, Joël Giraud, vous travaillez où ?
Eh bien écoutez, je suis en train de consommer beaucoup de data sur mon téléphone et sur ma tablette à mon domicile à l'Argentière, voilà.
D'accord, ok. Vous êtes autorisé à sortir ou pas ?
Ben, comme tout le monde, je fais mon petit papier et je fais mon heure de balade.
Alors, on traverse une triste période qui va certainement laisser des traces dans chacun d'entre nous, psychologique, physique, morale, économique. Alors, première question, j'avais un auditeur dernièrement qui ne comprenait pas. Il voyait les milliards sortir de tous les côtés pour pallier à cette crise. On cite 300 milliards de l'exécutif, 750 milliards de la Banque Centrale Européenne, 25 milliards de l'UE. Il s'interrogeait pour savoir pourquoi on ne pouvait pas sortir ces milliards avant. Alors, je ne vais pas vous demander un cours d'économie, mais clairement, d'où vient cet argent ? Et en plus, on nous annonce qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Donc, à part creuser le déficit, je ne vois pas.
Eh bien, vous avez donné la réponse vous-même. Jusqu'à présent, on était dans une situation où, effectivement, nous étions économiquement contraints à tenir un certain nombre de déficits. C'est important pour l'avenir aussi de tenir les déficits, vous savez, parce que c'est toujours... Les déficits, ça paye toujours un jour, mais avec un certain décalage. Et puis les déficits, s'il y a des déficits différents suivant les pays avec lesquels vous travaillez et avec lesquels vous négociez, au sens du négoce du terme, eh bien, c'est toujours embêtant. Mais là, c'est la planète entière, qui a pris feu avec cet épisode de pandémie du Covid-19. Et c'est effectivement ces fameuses règles européennes qui sont en fait des règles européennes calquées sur le fonctionnement de l'économie mondiale de 3% du produit intérieur brut qu'on ne doit pas dépasser en termes de déficit, qui ont explosé avec autorisation de la Commission européenne et l'émission probable et prochaine de ce qu'on appelle les Corona Bonds, c'est-à-dire des actifs qui vous permettront, des actifs financiers qui vous permettront de financer tout cela. Donc il y a effectivement pas de dérapage au niveau fiscal, parce que ça va ne pas se retrouver l'année prochaine dans la fiscalité des Français. Bon, pour autant, ça veut dire que ce qui avait été construit, c'est-à-dire une économie un peu assainie de quelque chose qui est étonnant, c'est-à-dire que quand vous êtes vous un particulier ou même une collectivité locale, vous ne laissez pas filer les déficits parce que vous ne pouvez pas émettre des billets pour faire en sorte que la monnaie pallie ce genre de choses. Et bien c'est cette doctrine-là qui a sauté, comme elle avait sauté d'ailleurs, rappelez-vous, au moment de la crise bancaire, et dans des proportions un peu différentes, parce que la crise bancaire, c'était quelque chose qui était complètement structurel. Là, on est quelque chose qui n'est pas du tout structurel, c'est conjoncturel. Et malheureusement, c'est bien la seule solution si on veut que le pays ne s'effondre pas et que le monde entier et la planète ne s'effondre pas sur le plan à la fois social et économique.
Joël Giraud, vous êtes loué par tous ou presque pour votre travail, votre implication dans la vie publique. Vous êtes un député influent. Bon, je ne vais pas vous faire que des compliments, Joël Giraud, ce matin. Et il y en a quand même quelques-uns qui s'interrogent et qui vous accusent d'être responsable. Alors, responsable par procuration, notamment de la destruction de l'hôpital, de la délocalisation, du maintien des élections municipales. Alors, j'ai pris que ces trois exemples-là. On vous accuse de tous les maux. Au sujet des municipales, déjà, il y a de fortes chances que le second tour soit reporté au calendrier grec. Était-il vraiment raisonnable de les organiser il y a trois semaines ?
Bah, écoutez, moi je fais partie de ceux qui avaient plaidé pour qu'elles ne soient pas organisées, je vais être franc. Pourquoi ? Parce qu'au dernier moment, on voyait de plus en plus cette crise sanitaire arriver. Il me semblait qu'il était raisonnable dans ces cas-là de faire en sorte de, tout simplement... Pour la sincérité des scrutins, parce que quand vous avez 40% d'électeurs, 30% d'électeurs, ça ne veut plus dire grand-chose de ne pas les organiser. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé. Lorsque vous ne pouvez pas voter un texte de loi, il faut que vous ayez l'accord des partis politiques pour faire en sorte que ces élections puissent être reportées. Et tous ceux qui ont la mémoire courte aujourd'hui et qui vous disent que c'était une grave erreur de les organiser sont les premiers à repasser les interviews extraordinaires. Quand vous voyez quand même la droite française qui a parlé de forfaiture si on ne les organisait pas. Et ça, deux jours avant le scrutin. Je crois que, très honnêtement, le président de la République avait une forte envie de les décaler dès le premier tour. Mais bon, quand vous avez l'ensemble des partis politiques qui vous disent c'est une forfaiture, on ne veut pas le faire, eh bien écoutez, vous êtes complètement lié parce que vous n'avez pas le droit de vous-même tout simplement de modifier la loi. Le président de la République ne modifie pas la loi. Pour tout ce qui relève de l'économie et qui a été modifié récemment Il y a eu une loi qui a été votée dans l'urgence avec des règles particulières. Mais là, c'est très trop tard. Et très honnêtement, celles et ceux qui, à l'époque, ont hurlé avec les loups pour dire il faut surtout les organiser, sont aujourd'hui beaucoup plus coupables que celles et ceux qui tentaient justement tout simplement de faire en sorte que l'on ait quelque chose qui se passe dans des conditions normales. Puis je vais vous dire, franchement, si beaucoup de partis politiques ou de gens ont réagi comme ça à l'époque, c'est simplement parce que personne ne croyait à l'arrivée de cette pandémie. C'est ça le sujet aussi. Vous avez quand même un nombre de gens qui, dans ce pays, jusqu'au dernier moment, n'y croyaient pas. Regardez ce qui se passait les dimanches, les premiers dimanches de confinement. Quand vous voyez les parcs qui sont bondés dans des villes comme Paris, les plages bondées du côté de la Côte d'Azur et du côté de Marseille, il y a quand même un tas de gens qui n'ont pas compris ce qui nous arrivait, excusez-moi, mais sur le rable. Même les plus éminents professeurs, comme celui qui aujourd'hui fait... qui a fait la une de tous les journaux, le professeur Raoult, je regardais encore ses déclarations juste au moment où l'épidémie était déjà assez virulente en Chine, c'était « ça n'arrivera pas chez nous parce que nous ferons en sorte que ceci ou que cela ». Bon, toujours est-il que cette épidémie est arrivée chez nous. Je pense que tout le monde est resté sur le schéma de ces grandes pandémies comme la grippe aviaire, le H1N1, mais également le MERS, où finalement les épidémies ont concerné une partie de la planète, mais n'ont pas du tout concerné l'autre partie de la planète, ou du moins de très peu. Et je crois que c'est ça qui s'est passé. Regardez à l'époque la façon dont Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, a été moquée, parce qu'elle avait fait faire des stocks de masques dans un pays qui, bien évidemment, n'a pas cette culture. Quand vous êtes en Asie, vous allez vous balader, si vous y êtes allé, vous voyez personne qui ne se balade pas dans la rue sans masque. Ouais. C'est assez... C'est même... Quelquefois, vous prenez le fou rire, quoi, parce que vous êtes en train de... Vous voyez des gens qui font du jogging sans arrêt avec des masques dans des endroits qui sont plutôt des endroits de pleine nature. Donc, j'ai vu ça dans des forêts autour de Chengdu, dans le Sichuan. Vous vous demandez dans quel monde vous êtes. Il y a une culture, c'est tout.
Ouais,
voilà. Personne n'y a cru.
Restons sur le côté santé, hein, avec une crise dans la crise pour l'hôpital. On imagine bien, évidemment, que tout cela ne date pas d'aujourd'hui, mais à partir de quel moment les différents gouvernements qui étaient aux affaires ont-ils perdu le fil de notre hôpital ?
Je crois que l'hôpital, ça a toujours été, si vous voulez, un poste de dépenses avec peu de recettes, bien évidemment, un peu comme l'éducation nationale, et on s'est toujours dit que tout ça pouvait être rationalisé. Bon, on rappelait les grands combats qu'on a menés, je citerai celui de Briançon, où tout le monde est bien content aujourd'hui de trouver un hôpital de bon niveau qui permet justement de faire barrière à cette pandémie. Moi, je me suis battu contre tous les gouvernements pour expliquer que les hôpitaux de proximité étaient indispensables et qu'il y avait une obligation, j'allais dire, de pouvoir être soigné convenablement, qu'on habite au fin fond de la brousse comme chez nous ou qu'on habite en plein centre-ville de Paris. Et ça, depuis que je suis parlementaire, il y a quand même un certain temps, il y a des gouvernements de droite, il y a des gouvernements de gauche, il y a le gouvernement actuel, ils se sont tous succédés. Et tout simplement, on avait la ligne bleue du déficit en vue, et on se disait que ça participait très largement, déficit de la sécurité sociale à l'époque, déficit de la santé, ça participait très largement à ne pas réduire la dette de la France. Bon, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui va changer, c'est que la considération d'abord vis-à-vis du personnel soignant au sens large du terme a été complètement modifiée, sa vision a été complètement modifiée dans la société, mis à part ces quelques crétins qui ne veulent pas d'infirmières ou de médecins dans leur propre immeuble de peur de choper une maladie. Et puis, la vision va radicalement changer, cette fois, pour ce qui est tout simplement de la mise à disposition des soins de proximité dans ce pays. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on ne tient, pas parce que il y a des très grands hôpitaux qui fonctionnent, mais parce qu'il y a des hôpitaux barrières de proximité.
Ouais. Joël Giraud.
Si nous n'avions pas ça, nous serions aujourd'hui bien emmerdés dans un département comme le nôtre.
Ouais. Force est de constater aujourd'hui que cette crise sanitaire nous renvoie en pleine face nos lacunes, notre inaction, surtout l'anticipation, et nous démontre par A plus B que peut-être notre modèle économique est à bout de souffle. Est-ce que cette crise ne va pas rebattre les cartes justement de ce modèle économique, de notre modèle de société ?
Je pense qu'elle va la rabattre au niveau mondial. puisque toute la planète est touchée. Jusqu'à présent, ce que je vous disais, la moitié de la planète ou les deux tiers de la planète n'étaient pas touchés, et notamment les économies les plus égoïstes, on va dire les économies occidentales. Bon, aujourd'hui, tout le monde est touché, ce qui veut dire que je pense qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on ne va plus considérer de la même façon ces notions financières, et que l'on va pouvoir intégrer des facteurs qui sont des facteurs sociaux, qui sont des facteurs économiques et qui sont aussi des facteurs territoriaux, qui a toujours été mon combat.
La relocalisation de certaines entreprises, on est en train d'être confronté à un manque de médicaments après un manque de matériel de sécurité pour le personnel soignant. Allons-nous comprendre que nous devons avoir aujourd'hui un minimum d'autonomie ?
Et je crains qu'aujourd'hui, c'est une des conséquences, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où l'ensemble des pays d'Europe vont chercher tout simplement à être moins dépendants qui les États-Unis, qui la Chine. Moi, j'espère simplement que cette solidarité se fera en interne à l'Europe, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul dans notre coin, qu'on s'appelle la France, qu'on s'appelle la Belgique, qu'on s'appelle l'Espagne, qu'on s'appelle l'Italie. Mais j'espère aussi que cela conduira à plus de solidarité européenne. Parce qu'aujourd'hui, quel est le drame finalement au niveau de la santé ? Eh bien, c'est tout simplement que l'Europe de la santé n'existe pas. Moi, j'écoute des gens qui sont en train de hurler contre l'Union européenne en disant « Regardez-moi ça, ils n'ont rien fait pour nous protéger. » Mais ils n'ont rien fait parce que les nations ont refusé aussi qu'il y ait une stratégie de santé au sein de l'Union européenne. Et finalement, on arrive à ce paradoxe absolument incroyable que la santé est européenne parce que il y a partout des initiatives qui sont des initiatives de coopération sanitaire qui se sont faites en dehors complètement de la puissance publique, ou je dirais en marge. Regardez ce qui se passe ici à Briançon avec le centre hospitalier des Escartons qui était devenu un centre hospitalier transfrontalier. Regardez ce qui est encore plus spectaculaire sur la frontière franco-allemande où des gens sont aujourd'hui évacués des hôpitaux du Grand Est en direction de l'Allemagne, même certains de l'Autriche.
De la Suisse
aussi. Et de la Suisse également. Cette notion d'Europe de la santé qui était refusée par les États est en train de naître en dehors de la volonté des États-nations. Donc ça aussi, ça va être un bouleversement. Il faudra que cette Europe, l'Europe économique existe, l'Europe sociale qui était le grand rêve de Jacques Delors, l'Europe de la sociale et de la santé, ne s'est pas construite parce que les États ont refusé de la construire. Eh bien aujourd'hui, c'est la meilleure preuve qu'il fallait la construire et qu'elle commence à se construire, j'allais dire, malgré les positions initiales des États.
Joël Giraud, un mot de politique politicienne, avec une crainte, hein, peut-être, est-ce que cette crise n'est pas en train de faire le lit définitif du populisme ?
Bah, écoutez, le populisme et les populismes de toute nature sont en train de gagner en Europe, mais pas partout, regardez. Lorsque les gens se seront posés, c'est-à-dire auront passé cette crise, parce qu'elle passera au bout de combien de temps, je n'en sais rien, je suis pas une pitié, mais ils vont se poser la question des solidarités européennes. Et les solidarités européennes, c'est justement, c'est l'inverse du populisme. Et regardez les récentes élections. On a eu quand même, jusqu'ici y compris en Croatie, des partis populistes qui ont été balayés au profit de partis, on va dire, centristes, classiques et pro-européens. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, c'est un monde qui va basculer entre des populismes ou des partis centristes qui prônent le vivre ensemble, mais il n'y aura plus forcément la place pour, je dirais, chacune des chapelles. Et chacune des chapelles voulant absolument, je dirais, gagner des points par rapport à un autre, parce qu'on aura vécu des crises qui, certes, nous ont divisé sur un certain plan, mais auront su aussi nous rassembler. Et je crois que ce que je retiens aussi de cette crise aujourd'hui, c'est cette incroyable volonté de la nation d'être solidaire et de vivre ensemble. Et ça concerne 90% des gens. Il y a quand même 90% des gens qui ont envie de vivre ensemble dans ce pays et en Europe.
Ce sera le côté positif pour terminer votre intervention. Merci Joël Giraud. Bon confinement pour la suite.
Bah écoutez, on va continuer. Entre nous soit dit, il vaut mieux être confiné à l'Argentière avec ses petits commerces de proximité où on peut tranquillou aller s'approvisionner plutôt que d'être confiné à Paris où il faut faire 2 heures de queue pour acheter un bout de jambon sous plastique. Hein.
Merci Joël Giraud, à très bientôt.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
À plein, près de chez vous.